Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Game as a Podcast, une émission qui parle de jeux vidéo, mais plus sous un angle business, marketing, où on commente plus l'industrie dans son ensemble, plutôt que de commenter et d'évaluer les jeux individuellement. Mais aujourd'hui, on va parler d'un jeu en particulier, on va parler de Dragon's Dogma 2, en l'occurrence, mais plutôt de la licence et de voir comment elle s'inscrit dans la stratégie de Capcom. Alors déjà, on va parler un petit peu de Dragon's Dogma 2. Donc c'est un jeu d'action-aventure en open world qui sort donc le 22 mars prochain. Et il y a quand même beaucoup d'attentes pour ce jeu. Souvent, on l'a présenté comme un des jeux les plus attendus de l'année. On l'annonce quand même déjà parfois comme un des prétendants au GOTY. Bon, de mon point de vue, on s'avance un petit peu, mais c'est pour dire qu'il y a quand même une aura particulière et une attente qui entoure ce jeu. Et ouais, c'est quand même un petit peu étonnant parce que Dragon's Dogma 2, donc c'est la suite de Dragon's Dogma 1, enfin Dragon's Dogma tout court, qui était sorti il y a 12 ans, donc en 2012, à peu près au même moment, et c'est un titre qui était quand même plutôt passé inaperçu. Alors, il a quand même dépassé le million d'exemplaires un mois après sa sortie, mais c'est un jeu qui, à l'époque, il sort pas vraiment c'est pas un grand succès commercial, c'est pas une catastrophe, mais disons que, bon, hasard du calendrier, il sort 6 mois après Skyrim, et quand on parle de RPG en monde ouvert, bon, bah, évidemment, tout le monde était omnibilé, d'ailleurs, moi compris, par Skyrim, et assez peu de gens découvrent Dragon's Dogma au moment de sa sortie. Alors, beaucoup l'ont redécouvert lors de la sortie de l'extension Dark Horizon qui sort quelques années après, mais en tant que tel, c'est pas un titre qui a eu particulièrement une grosse fanbase au moment de sa sortie, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui explique pourquoi on a attendu entre guillemets 12 ans avant qu'il y ait une suite. Je pense que Capcom, voilà, n'était pas forcément pressé de sortir une suite, étant donné que bon, la réception était quand même modeste. Pas négative, hein, ceci étant dit, mais elle était bien en deçà de ce que pouvait être un Resident Evil, par exemple, ou même un Street Fighter. C'est d'ailleurs un titre, je pense, qui a été redécouvert par beaucoup par la suite. Il y a eu beaucoup de youtubeurs, d'influenceurs jeux vidéo qui ont fait des vidéos, qui ont représenté le jeu. Parce que, bon, il a des choses intéressantes à dire, on y viendra peut-être un petit peu après. Mais donc, tout ça, c'est un petit peu préparé le terrain, en fait, pour la suite. Alors certes, ces vidéos sont parfois sorties avant l'annonce de la suite, mais je pense que c'est un peu préparé le terrain, et c'est un peu ce qui explique pourquoi il y a une attente particulière autour du 2, alors que le 1 était sorti globalement dans l'indifférence. C'est peut-être un peu fort de dire ça, mais voilà, c'était pas le gros triple A de Capcom, et ça l'est pas encore aujourd'hui. Ça le deviendra peut-être avec le 2. En tout cas, c'est la grosse sortie de l'année pour Capcom. Donc on sent bien que voilà, y a peut-être la possibilité pour Capcom d'en faire une grosse licence par la suite. Et d'ailleurs, en parlant de licence, donc Capcom, qui est l'éditeur et le développeur de Dragon's Dogma, justement, c'est un éditeur, bon, ça c'est lié au marché du jeu vidéo, hein, les éditeurs, on les connaît surtout pour les marques, et Capcom ne fait pas exception. Ils ont des marques qui sont très connues et qui parlent à beaucoup de personnes dans le jeu vidéo, mais même au-delà. Capcom, c'est, comme vous le savez certainement, Resident Evil, Street Fighter, et notamment Monster Hunter, qui ces dernières années a vraiment explosé. Mais c'est aussi d'autres licences, c'est aussi Mega Man, c'est aussi Phoenix Wright, c'est aussi Devil May Cry, et c'est aussi d'autres licences un peu moins connues aujourd'hui, mais c'est Ghosts and Goblins, c'est Okami, c'est Dead Rising, et récemment Exo Primal, etc. Et d'ailleurs, je pense que on peut classer en gros les marques de Capcom en trois grandes catégories. Il y a d'abord le premier tiers, qui sont vraiment les grosses marques de Capcom, et c'est souvent celles qu'on cite le premier quand on parle de Capcom. Donc je les ai données, Resident Evil, Street Fighter et Monster Hunter, qui sont vraiment à la fois les sagas les plus iconiques, les plus historiques de l'éditeur, mais aussi celles qui, mécaniquement, font le plus de ventes. Encore que ça peut être un peu moins vrai pour Street Fighter, mais ça reste quand même un nom très important pour Capcom. Et puis ensuite, il y a un deuxième tiers, où là, on a des licences qui sont connues, mais qui ne sont pas forcément des triple A ou qui n'arrivent pas forcément à enclencher le même nombre de ventes que les premières que j'ai citées. Donc là, le tier 2, on pourrait mettre Phoenix Wright, Megaman. Devil May Cry, ça peut prêter à débat. Est-ce que c'est plutôt tier 1? Est-ce que c'est plutôt tier 2? Bon, quoi qu'il en soit, il serait dans un entre-deux. Et puis, il y a ce que j'appellerais le tier 3, donc les autres marques de Capcom, qui sont Ghosts and Goblins, Okami, Exoprima, est-ce qu'on pourrait le mettre, je pense, etc. Alors, ça ne veut pas dire Dead Rising, typiquement. Ce n'est pas des licences. Alors là, ce tier 1, tier 2, tier 3, ce n'est pas en fonction de la qualité des jeux ou de la licence, mais c'est plus en fonction des ventes et des ambitions des jeux à chaque fois. Aujourd'hui, Ghosts and Goblins, Okami, c'est plutôt des portages, des remasters, des remakes un peu plus timides que ne sont là les AAA comme le prochain Monster Hunter ou même le dernier Street Fighter. Et quand on a ce tir-là, qui peut évidemment être discuté, on ne sait pas trop comment placer Dragon's Dogma en faisant abstraction du deuxième qui va sortir. Quand on regarde Dragon's Dogma 1, si on se place avant l'annonce du deuxième, on pourrait plutôt dire, Dragon's Dogma, ça a été un jeu qui est sorti dans les années, début des années 2010, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu des ventes extraordinaires, la marque, on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment déclinée sur énormément d'autres supports, donc on serait tenté de la mettre dans le tier 3. Mais c'est vrai que Capcom, ils n'ont pas lâché l'affaire. Il y a d'abord une série animée produite sur Netflix qui a vu le jour. Et puis là, il y a un deuxième épisode pour lequel on voit que Capcom met beaucoup de moyens en termes de communication, un petit peu à la manière de Monster Hunter World. Et on voit aussi les retours qui, à l'heure actuelle, on n'a pas de test, mais les previews, on a quand même des critiques assez bonnes et qui laissent présager que ce Dragon's Dogma 2 sera un grand succès. Alors après, toutes les critiques ne sont pas unanimes, il y en a certains qui sont assez déçus ou pas forcément emballés par le titre. On verra les tests, mais de toute façon, là, l'objet, c'est pas de dire si le jeu est bon ou pas, de toute façon, je pourrais pas le dire, mais c'est plutôt de voir comment ça s'inscrit dans le portefeuille de marque de Capcom. Donc on a dit, Dragon's Dogma, c'est un titre un peu particulier, on aurait du mal à le classer dans les tiers, plutôt tier 3, voire tier 2 et encore. Mais évidemment, l'enjeu, quand vous êtes une marque du tier 2 ou tier 3, c'est évidemment d'aller dans le tier 1. Le problème, c'est que quand on regarde certains titres, Phoenix Wright, c'est du visual novel, c'est difficile pour Capcom vraiment de le faire passer en tier 1 et enfin, d'en espérer 15-20 millions de ventes comme pour un Monster Hunter. Pareil pour Megaman, qui, parce que ce sont des genres un peu plus qui s'adressent à des audiences plus confidentielles, c'est évidemment plus difficile pour ces marques-là de passer le cap et de devenir des tier 1, tier 1 marques. En revanche, Dragon's Dogma, il a le potentiel. Dragon's Dogma, c'est un jeu en monde ouvert, c'est un jeu, c'est un action RPG, donc a priori, il pourrait devenir une marque du tier 1. Et la question, c'est est-ce que Capcom peut en faire une marque tier 1 et est-ce que ça porterait pas préjudice aux autres marques du catalogue de Capcom. Mais avant de débattre de ça, j'ai envie qu'on revienne un petit peu sur les raisons de création de Dragon's Dogma. Donc Dragon's Dogma, c'est un jeu au début qui s'est un petit peu construit comme un anti-Monster Hunter, dans le sens où, quand on écoute les développeurs, l'idée c'était de partir d'un constat qui était que quand vous affrontez des grands monstres, notamment dans Monster Hunter, souvent, très souvent, vous ne voyez que les pieds ou les pattes du monstre, et le gigantisme de la bête fait que de toute façon, ce n'était pas dans l'écran et que vous passez votre temps à taper les pieds, les pattes de l'animal. Et fort de ce constat, les équipes de Dragon's Dogma se disent, on aimerait bien faire un jeu où justement vous pouvez grimper sur le monstre, le taper, et vraiment voir la créature dans toute sa dimension. Et évidemment, ça s'inspire beaucoup de Shadow of the Colossus, qui est un jeu où, pareil, vous allez affronter des colosses sur lesquels vous allez pouvoir grimper et vraiment vous prenez conscience du gigantisme des monstres que vous affrontez. Et donc, Dragon's Dogma, il se construit un peu comme ça. Alors, il y a évidemment plein d'autres choses qui façonnent, en fait, le jeu que va être Dragon's Dogma. Mais disons que avec cette approche-là, on peut se dire, bah, effectivement, c'est un jeu qui va tracer sa route, qui prend des influences ici et là, qui essaye d'aller plus loin que des contraintes qui sont déjà établies dans des licences comme Monster Hunter et qui auront du mal à être dépassées au moment où le jeu est fait. Et donc, c'est un peu dans cette ambition-là que Dragon's Dogma sort. On a un cadre médiéval fantastique qui est très classique, très occidental d'ailleurs. Et d'ailleurs, je pense qu'il a souffert de la comparaison avec Skyrim quand il est sorti. Autre point qui fait aussi de Dragon's Dogma le premier un espèce d'anti-Monster Hunter, c'est que c'est un jeu qui est complètement solo. Alors, il y a une petite nuance, mais pour rappel, Monster Hunter, c'est une licence qui a été créée vraiment pour profiter du multijoueur. C'est-à-dire qu'à l'époque, donc c'est en 2004, quand Monster Hunter sort, la PlayStation 2 vient de sortir, la grosse nouveauté c'est le multijoueur, et Capcom se dit ok, ça va vraiment changer l'industrie, il faut qu'on soit présent là-dessus, donc nous aussi on va faire des jeux multijoueurs. Et d'ailleurs, à ce propos, Capcom en développe plusieurs, donc il y a un premier titre donc, de Resident Evil qui est Resident Evil Revelation, qui lui donc, est un titre multijoueur. Donc, qui va être un essai en fait, de porter une grande licence connue de Capcom sur un format multijoueur. On a aussi une licence qui a été mise de côté, c'est Automodelista, qui était un jeu de voiture, très arcade. Bon, ça n'a pas été un grand succès, donc ça a complètement été mis de côté. Et puis on a donc Monster Hunter, qui représente une sorte d'aboutissement en fait, de ce que Capcom veut faire sur le multijoueur, et effectivement, l'essence de Monster Hunter, c'est de s'allier entre joueurs, alors vous pouvez jouer tout seul, hein, mais de 1 à 4 pour aller chasser des monstres toujours plus grands ou dangereux les uns que les autres. Et donc ça a été la genèse de Monster Hunter, et Dragon's Dogma est pensé comme un jeu solo. Mais il y a une nuance, c'est que dans Dragon's Dogma, en fait, la grosse feature, en fait, la grosse fonctionnalité majeure de Dragon's Dogma, c'est que vous pouvez être accompagné de pions. Donc, les pions, c'est en fait des PNJ, donc personnages non-joueurs, des personnages que vous allez créer, qui n'existent pas dans le monde, hein, que vous allez créer et qui vont vous accompagner dans votre aventure. Et il y a quand même une couche multijoueur, c'est pas un jeu purement solo, il y a une couche multijoueur parce que ces pions que vous allez créer, vous allez pouvoir en fait les mettre à disposition d'autres joueurs. Et donc, des joueurs du monde entier vont pouvoir en fait amener vos pions dans leur partie. Vous aussi, vous pouvez continuer à les utiliser. En fait, ils se dupliquent. Et donc, vous avez une couche multijoueur. Mais quand vous jouez, vous êtes toujours seul. Le seul joueur. Même si vous êtes accompagné de pions, ce sont des personnages qui sont seulement contrôlés par l'IA. Donc, ça, c'est un peu. C'était la grosse fonctionnalité de Dragon's Dogma à sa sortie. Le 2 reprend ça, évidemment. Mais il garde cette. Il reprend ça, mais il ne va pas plus loin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer en multijoueur à 4, par exemple, sur une même partie de Dragon's Dogma. Ça reste toujours un jeu solo avec une fonctionnalité multijoueur qui est la création et le partage de pions. Et donc, tout ça nous laisse penser que les approches entre Dragon's Dogma et la licence Monster Hunter, elles sont radicalement différentes. Même si dans les deux jeux, on affronte des grands monstres, etc. Quand même, on a un bestiaire qui pourrait se ressembler. Hein. Le dragon, le boss final de Dragon's Dogma ressemble énormément à un dragon qu'on pourrait croiser dans Monster Hunter. Mais le fait est que un jeu soit pensé comme étant un open world solo et l'autre un jeu multijoueur dans lequel on va simplement aller dans des zones précises et bien délimitées font qu'il y avait quand même des positionnements qui étaient assez distincts. Et ça, c'est une qualité qu'on retrouve beaucoup chez Capcom. Capcom a cette faculté à vraiment bien segmenter son marché et à bien adresser ses différents segments. Si on regarde les plus grands succès de Capcom, À chaque fois, il s'adresse vraiment à un type de joueur très particulier. Vous aimez la compétition, vous avez Street Fighter. Vous aimez la coopération, vous avez Monster Hunter. Vous aimez les défis enfin, solo, bah, vous avez Resident Evil. Dans le sens, c'est du survival horror, avec un certain challenge, mais dans lequel je suis tout seul, hein, même s'il y a eu des titres, comme j'ai dit, ou multijoueurs. Vous voulez simplement avoir une aventure un peu légère, sans complexité de gameplay, bah vous avez des visual novels qui sont Phoenix Wright. Et en fait, ça c'est quelque chose que quand même fait très bien. Alors il faut pas. Une erreur qu'on peut faire dans segmentation, c'est de segmenter par rapport à l'offre et plutôt que par rapport à la demande. C'est-à-dire que souvent les gens vont se dire ah ben. Capcom, ils sont très forts parce qu'ils ont un jeu de survival horror, un jeu de versus fighting, un action-aventure, et comme ils adressent tous les genres de jeux, ben, ils adressent tous les joueurs possibles. Alors ça, c'est une lecture qui est un peu simpliste, en fait, dans une segmentation marketing, parce que ce qui est important, c'est pas de segmenter en fonction de l'offre, donc en fonction des jeux qui arrivent, enfin, des jeux qui sortent ou des jeux qui existent, mais plutôt de segmenter en fonction de la demande. C'est-à-dire, qu'est-ce que les joueurs et les joueuses que vous ciblez veulent faire? Et c'est en ça que Capcom est fort, c'est qu'ils ont vraiment des profils de joueurs qu'ils adressent qui sont très différents les uns des autres. Et à chaque fois sur ce segment, ils sont quand même très forts. Si vous voulez de la compétition en 1v1, bah oui, alors on va souvent chercher vers du versus fighting, mais ce n'est pas les seuls jeux. Les jeux de cartes, par exemple, en 1v1, peuvent aussi s'adresser à des joueurs, enfin, s'adressent aussi à des joueurs qui aiment la compétition. Et quand vous recherchez des jeux multijoueurs, des jeux PVP en 1v1, bah, Street Fighter, c'est forcément un nom qui va ressortir. Pareil, si vous cherchez des jeux de coopération, enfin, des AAA coopératifs, Monster Hunter, c'est un jeu qui va forcément sortir du lot, et c'est peut-être un des meilleurs exemples. Donc tout ça pour dire que Capcom, ils arrivent très bien à segmenter. Et d'ailleurs, c'est un petit peu. Ça, ils en sont conscients. Et c'est un petit peu aussi parfois un des problèmes, c'est qu'ils sont enfermés dans certains genres. Quand vous lisez les rapports de Capcom, une des difficultés qu'ils aimeraient adresser, c'est avoir des genres de jeux un peu plus mainstream. Parce que quand même, les genres phares de Capcom, c'est le survival horror, c'est le versus fighting, c'est des genres très compliqués. Et même si vous cherchez à cibler des gens qui font de la compétition, si votre produit c'est du versus fighting, bah, parmi les gens qui aiment la compétition, forcément vous allez en laisser sur le carreau parce que c'est un format, c'est un type de jeu qui est particulier. Donc ils adressent toujours une cible précise avec un format particulier, mais le format, le genre de jeu on va dire avec lequel ils adressent, c'est pas toujours le genre de jeu le plus vaste. Et Monster Hunter a bien réussi ça parce que. Bah, certes, ça reste de la coopération, vous pouvez quand même jouer solo, mais ça reste un genre de jeu, enfin Monster Hunter, ça reste une licence qui peut très bien en fait s'adresser à des gens qui aiment The Witcher, qui aiment les Dark Souls, qui aiment même les Horizon Zero Dawn, qui aiment les Assassin's Creed, et d'ailleurs, quand vous regardez les partenariats, les collaborations qu'a réalisé Capcom pour Monster Hunter World, on retrouve des The Witcher, on retrouve Horizon, on retrouve Assassin's Creed, parce qu'en fait, c'est des jeux sur lesquels on retrouve beaucoup les mêmes joueurs. Alors ça, je dis pas que les joueurs d'Assassin's Creed sont les joueurs de Monster Hunter, mais du temps où je travaillais typiquement chez Ubisoft, j'avais fait ce travail d'analyse sur les joueurs de Monster Hunter, et en fait on s'était rendu compte que il y avait beaucoup de joueurs de Monster Hunter qui étaient aussi des joueurs d'Assassin's Creed. Enfin, plutôt l'inverse, des joueurs d'Assassin's Creed qui étaient beaucoup aussi des joueurs de Monster Hunter. Et ça, c'est des choses quand vous êtes. Un éditeur que vous prenez en compte parce que ça veut dire que bah, typiquement c'est des joueurs que vous allez pouvoir cibler mais ça veut aussi dire que potentiellement si vous jouez à un Assassin's Creed en même temps qu'un Monster Hunter bah, votre cible elle va peut-être être un peu tiraillée entre les deux jeux et c'est pourtant c'est des jeux d'emblée où on dit ouais mais ça n'a rien à voir Assassin's Creed c'est plutôt un setting enfin on affronte des humains c'est un setting plutôt historique Monster Hunter c'est complètement fantastique voire Heroic Fantasy par moment donc c'est pas des genres qui c'est pas des jeux qui ont des points communs et pourtant on se rend compte que en termes de joueurs il y a quand même des passerelles qui se font assez facilement et donc Bah, l'enjeu pour Capcom avec Dragon's Dogma, c'est d'adresser aussi un jour de joueurs particuliers, mais avec un format peut-être plus large. Et on aurait pu se dire à un moment donné, en fait, si Dragon's Dogma avait réussi à vraiment exploser, bah, en fait, il aurait pu à terme s'adresser aux joueurs de Monster Hunter uniquement, parce qu'il a un format qui est plus accessible, qui est l'open world, qui est le RPG avec des quêtes, et donc. Il aurait pu en fait à un moment donné rendre obsolète Monster Hunter. Alors l'histoire a fait que ça s'est pas fait comme ça. Mais et c'est là où je veux en venir sur mon point, c'est qu'en fait pourquoi ça s'est pas fait comme ça? C'est parce que Monster Hunter de son côté lui, il a évolué dans une direction qui était de s'ouvrir de plus en plus à un nombre de joueurs et de joueuses plus large et donc de revoir ses mécaniques. Et en fait parmi les mécaniques qu'il a reprises, beaucoup ont été en fait des choses déjà installées dans le RPG. Et dans ce que proposait Dragon's Dogma. Si on regarde la trajectoire récente des Monster Hunter, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve une scénarisation un peu plus poussée. Alors certes, elle n'est pas terrible, mais elle est toujours mieux que celle qu'on avait dans les premiers Monster Hunter, où il y avait absolument zéro histoire. Et d'ailleurs, l'histoire de Dragon's Dogma est assez légère aussi. Donc on a un pont narratif, un axe, je dirais une direction narrative qui tend à se rapprocher de Dragon's Dogma. On a une ouverture des zones qui fait que ça ressemble de plus en plus, ça tend vers un open world sans en être un pour le moment, mais avec Wilds par exemple, on a l'impression que les zones sont quand même vraiment grandes, qu'il y a beaucoup plus de vie, donc peut-être qu'une des directions de Monster Hunter, ça va être un, plus de scénarisation, on l'a dit, deux, un open world. Et puis, donc ça c'est quand même des caractéristiques qui font que on tend vers quelque chose qui est similaire à ce que Dragon's Dogma propose. Et puis à l'inverse, ce que Dragon's Dogma propose aussi, ce vers quoi il va tendre, bah on voit bien avec le 2. Qu'est-ce que le 2 propose de plus par rapport au 1? C'est quoi? C'est un plus grand bestiaire. C'est quelque chose qui pourrait puiser chez Monster Hunter. Et une évolution naturelle, ça pourrait être de dire, bah, les pions que vous avez créés, vous pouvez les contrôler dans la partie d'un de vos amis. Et ça pourrait être donc le multijoueur. Et en fait. Si on voit qu'il y a ces ponts, enfin, il y a un pont qui se trace entre Monster Hunter et Dragon's Dogma, et d'ailleurs, sur le bestiaire, je tiens à dire que quand je regarde les trailers de Dragon's Dogma, je me dis, mais ce jeu serait tellement bien avec le bestiaire de Monster Hunter. Enfin, il y aurait. Déjà, on l'a vu avec l'anniversaire de Monster Hunter, c'est plus de 220 monstres qui ont été créés pour la licence Monster Hunter. Bah, ça fait quand même un bestiaire tout fait dans Dragon's Dogma, qui pour le coup puise dans des choses très convenues. Hein. C'est très mythologie grecque. Hein. Là, on nous montre des Minotaures. Des méduses, etc. Donc, bon, c'est pas follement original. Après, ça peut rester efficace, hein, ça reste intéressant. J'aime beaucoup les designs des monstres par ailleurs, même s'ils sont classiques. Mais donc, on voit qu'il y a quand même un pont qui se trace entre Monster Hunter et Dragon's Dogma. Et ce qui m'amène un peu à la réflexion suivante, c'est en fait comment Capcom va gérer son Dragon's Dogma par rapport à Monster Hunter. Parce que si. Monster Hunter tend à ressembler, enfin va dans une direction, je dis pas qu'il va ressembler à Dragon's Dogma, mais qui va dans une direction où je m'ouvre, où je mets plus d'histoire, je mets plus de scénarisation, là finalement, ça fait que c'est quelque chose qui va ressembler de plus en plus à ce que Dragon's Dogma essaie de faire. Et on pourrait se dire, mais quel serait l'intérêt, enfin dans quelle direction pourrait aller Dragon's Dogma? Ça va être quoi? Ça va être n'importe quelle direction de RPG classique, c'est-à-dire bah, des quêtes plus intéressantes, un bestiaire plus étoffé, des maps plus grandes. Et ça, c'est des choses vers lesquelles, enfin, ce que Dragon's Dogma, ce que le futur de Dragon's Dogma pourrait proposer, c'est déjà quelque chose qu'on peut retrouver par certains aspects dans Monster Hunter et dans ce que voudrait être Monster Hunter. Et donc, on a peut-être pour la première fois depuis un moment deux marques qui, en termes de marché, font pas trop de sens. C'est-à-dire que si moi je suis côté Capcom, je me dirais, mais en fait, les joueurs à qui on essaye de vendre Dragon's Dogma, c'est aussi des joueurs de Monster Hunter. En fait, c'est des joueurs qu'on atteint déjà. Et donc, on n'a pas trop d'intérêt à faire un Dragon's Dogma ou à faire vivre la licence Dragon's Dogma. Je mets quand même enfin, deux disclaimers sur cette remarque. La première, c'est que bah, le jeu vidéo, c'est pas juste des logiques marketing, c'est aussi parfois des envies. Artistique, créative, et c'est ça d'ailleurs qui. C'est ces volontés-là qui ont abouti à la création de Dragon's Dogma, et c'est quelque chose qui est normal et dont il faut se réjouir. Après, sur le plan business, il va falloir trouver un positionnement pour Dragon's Manga par rapport à Monster Hunter. Et quand on voit que Monster Hunter va arriver, enfin le Monster Hunter Worlds va arriver en 2025 et Dragon's Dogma en 2024, on se dit que peut-être il est là en fait la raison d'être de Dragon's Dogma. C'est que je ne vois pas en fait Monster Hunter évoluer dans la direction dont nous en est habitué Capcom et celle de Dragon's Dogma évoluer. Parce qu'en fait, c'est des jeux qui peuvent devenir trop similaires. Je dis pas qu'actuellement ils sont similaires, mais qui peuvent devenir trop similaires et que dans le portefeuille de Capcom n'aurait pas trop de sens. En revanche, là où ça aurait du sens, c'est pas forcément pour essayer d'atteindre des genres de joueurs différents, mais plutôt pour essayer d'adresser les mêmes joueurs, mais avec plus une meilleure fréquence. Ce que je veux dire par là, c'est que ok, on voit que Resident Evil, Street Fighter, Monster Hunter, ils arrivent à adresser des joueurs très différents. Encore que, c'est mon cas, on peut être fan des 3 et jouer aux 3. Mais la grosse fanbase de Street Fighter, elle joue pas Monster Hunter. La grosse fanbase de Monster Hunter, elle joue pas Resident Evil. Et vice-versa. Et donc ça, c'est pas une mauvaise chose, c'est que c'est des marques qui sont très bien positionnées. Mais on voit que Dragon's Dogma, par ce qu'il propose, c'est quand même beaucoup... il va beaucoup chercher dans la base de joueurs de Monster Hunter. Ce que Capcom fait très peu avec ces jeux-là. Ce qu'il faisait, mais on y reviendra après. Et donc, comment pourrait Dragon's Dogma exister par rapport à Monster Hunter? C'est plutôt, je dirais, en étant une sorte de licence de support à Monster Hunter. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, c'est pas pour tous les fans de Dragon's Dogma... ne s'énerve pas, hein. C'est pas, je ne parle pas en termes de qualité, je parle toujours en termes de positionnement. Le constat, c'est que Monster Hunter, c'est une licence qui réussit très bien. Et c'est une licence qui, aujourd'hui, peut s'inscrire vraiment comme les plus grandes licences. Ça fait déjà partie des plus grandes licences du jeu vidéo. Enfin, de toute façon, moi, c'est ma licence préférée, donc je suis un peu biaisé. Mais le fait est que World a dépassé les 25 millions, fait que c'est une licence vraiment qui, aujourd'hui, est une grande licence. Au même titre qu'un Call of Duty, au même titre qu'un Assassin's Creed, au même titre qu'un Final Fantasy. Donc ça, c'est la licence phare de Monster Hunter, de Capcom, et Capcom a intérêt à capitaliser dessus et à continuer. Maintenant, vous avez un jeu Dragon's Dogma qui vient chercher beaucoup des joueurs et des joueuses de Monster Hunter. Et donc, comment on l'a fait exister? Une des manières de faire, c'est d'en fait de faire un roulement. C'est-à-dire, quand j'ai du Monster Hunter qui sort, j'ai pas de Dragon's Dogma. Quand j'ai pas de Monster Hunter, je sors mon Dragon's Dogma. Parce que les joueurs et les joueuses que je cible sont les mêmes, et je vais essayer d'alterner comme ça, entre les deux licences, pour en fait essayer de maximiser mes revenus. Hein, pour essayer, en fait, si vous êtes fan de Monster Hunter, et qu'on vous dit j'ai un gros Monster Hunter de qualité qui sort chaque année, forcément, ça vous fait plaisir. Alors, la régularité, avoir un jeu par année, ça fait peur parce qu'on se dit j'ai peur pour ma qualité. Mais si c'est sur des licences différentes, sur des équipes différentes, à ce compte-là, ça peut en fait permettre de garder un certain standard de qualité. Et on n'est pas. Capcom, de toute façon, je ne pense pas que Capcom s'inscrira dans une logique de j'en sors un chaque année, mais ça peut être je sors un jeu Monster Hunter, et puis le prochain, je sors un jeu Dragon's Dogma, et puis ensuite un autre Monster Hunter, etc. etc. Donc ça risque en fait d'avoir des licences qui vont s'entremêler, mais vu qu'on cible des joueurs similaires, peut-être que c'est l'effet espéré. Et à terme, en fait, ça permettra en fait aussi de vraiment créer une espèce de synergie entre les deux des licences, où on va en fait permettre à Capcom de maximiser en fait les revenus. Le dernier Monster Hunter, je crois qu'il est sorti en 2000. Il est sorti en 2018, enfin Monster Hunter World est sorti en 2018, Iceborne je crois en 2019, et puis après on a Rise en 2021, et puis Sunbreak ça va être 2022. Donc si entre les deux, typiquement, on arrive à placer un Dragon's Dogma, pour Capcom c'est le jackpot, parce que ça veut dire que en fait on maximise en fait nos revenus en sortant des jeux un peu similaires qui s'adressent à la même base, alors similaires dans ce qu'on veut proposer, similaire dans l'audience pardon, qu'on veut adresser. Et donc, si on se place sur le calendrier actuel, Dragon's Dogma 2, il sort en 2024. Je sors mon Monster Hunter Wilds en 2025. Son extension en 2026. Et là, je peux sortir un Dragon's Dogma 3 en 2027. Et puis repartir avec un autre Monster Hunter. Et ça laisse un certain temps de développement suffisant. Ça fait 3-4 ans. Alors après, on pourrait se passer ça, hein, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, les AAA demandent un peu plus de 3 ans pour les faire. On est plutôt sur du 5 ans, 5-6. Mais voilà, ça pourrait s'allonger. Et en fait, mieux gérer le calendrier. Parce que si vous avez toujours la même équipe, c'est en fait. Si vous voulez maximiser Monster Hunter, soit, enfin, la licence Monster Hunter, soit bah, vous gardez la même équipe et vous les faites travailler, en fait, enfin, si vous voulez maximiser les revenus auprès d'une audience, pas la licence, vous allez en fait juste avoir plusieurs studios qui travaillent sur des marques différentes mais qui s'adressent à la même audience, donc typiquement Monster Hunter et Dragon's Dogma, ou alors vous allez utiliser une seule licence mais que vous allez délégué à plusieurs studios. Et c'est exactement ce que fait Activision avec Call of Duty, hein. Ils ont trois studios majeurs qui travaillent dessus, et puis vous avez tout un tas de studios secondaires qui viennent accompagner le développement. Ça pourrait être un horizon pour Capcom. Après, évidemment, moi, en tant que joueur, ça fait accélérer les calendriers, ça fait toujours un peu peur pour la qualité, mais ça pourrait être permis avec des rythmes raisonnables. De conserver une qualité et un intérêt qui soit important plutôt que voilà céder simplement à des logiques mercantiles. Mais bon, ça reste Capcom reste une entreprise comme tout le monde. Son cours en bourse a été multiplié par 20, je crois, d'ici enfin depuis quelques années. Si je crois même que je suis encore en train de minimiser, mais évidemment que ça attire des investisseurs et ces investisseurs-là, ils vont être enfin ces actionnaires, enfin ces investisseurs vont être beaucoup plus regardants sur ça. Donc ça c'était sur mes réflexions sur le positionnement de Dragon's Dogma par rapport au catalogue, enfin portefeuille de marque de Capcom. Mais il faut savoir que Capcom a beaucoup eu dans son histoire des licences qui se répondaient comme ça, hein. Onimusha, ça vient de la volonté de faire un Resident Evil chez les samouraïs. Pareil pour Dino Crisis, et qu'aujourd'hui on redemande. On a aussi Dead Rising qui est vraiment j'irais un peu l'enfant entre Resident Evil et Devil May Cry, hein, si on devait prendre seulement deux licences de Capcom. Donc on voit que Capcom a déjà fait ça par le passé, et ça pourrait être aussi bénéfique pour d'autres licences. Je pense à Resident Evil. Aujourd'hui, Capcom est rentré dans une logique où je sors un remake de Resident Evil et je sors une nouvelle itération. Donc là, bah, la logique voudrait qu'on attende un Resident Evil 9, et puis après ce Resident Evil 9, on va avoir un autre remake. Le problème, c'est que bah, les remakes, vous pouvez pas en faire, vous pouvez pas utiliser cette corde pendant des années. Parce que là, on est en train de se poser la question, ok, ils ont fait le 2, 3, 4, qui sont les plus gros jeux de Resident Evil, depuis le. Enfin, de l'ancienne ère de Resident Evil, mais est-ce que le 5, le 6, étant donné que la réception critique était moyenne, on va faire des remakes? Bah, c'est pas dit. Enfin, là, ça demanderait un plus gros travail en fait que de refaire des remakes du 4, du 2 et du 3. Et puis, bon, une fois que, même si on se dit, ok, on peut faire un remake de Code Veronica ou du premier, d'accord, mais au bout d'un moment, vous allez épuiser tous les remakes que vous pouvez faire, et donc. Naturellement, vous allez vous déporter sur autre chose. Soit on refait que des nouveaux Resident Evil, donc on va faire le 8, 9, 10, 11, 12, jusqu'à voilà, ainsi de suite. Ou alors, vous allez utiliser d'autres licences qui vont prendre le relais de Resident Evil. Et Dino Crisis, ce serait un très bon exemple. Typiquement, si on se dit, bah, avec Resident Evil, j'ai une certaine cible, ça marche très bien, et ben peut-être que plutôt que d'essayer de cibler ces gens-là avec un nouveau Resident Evil, je vais juste les adresser avec un nouveau Dino Crisis, qui sera en fait le même, enfin, dont l'ambition sera d'adresser la même audience que les Resident Evil. Et puis si ça marche bien de faire un remake, eh bien, qu'est-ce qui m'empêche de refaire revivre la licence avec un 2, un 3, ou voir le remake de tous les autres épisodes, etc. Et ça, je pense que c'est quelque chose... En fait, on est en train d'assister à une nouvelle phase de Capcom, où on a eu depuis... que je commencerai en fait en 2018 avec Monster Hunter World. Enfin, en vrai, on pourrait quand même la commencer en 2017 avec le retour de Resident Evil 7. Avec le retour de Resident Evil via Resident Evil 7, où là vraiment, donc ce retour aux sources est un grand succès pour Capcom. L'année suivante, on a Monster Hunter World qui fait exploser, qui fait changer de dimension la licence Monster Hunter. Et donc, on a un peu... les dernières années de Capcom, jusqu'à aujourd'hui, elles sont bénies, parce que toutes les licences explosent. Street Fighter 6 explose, Monster Hunter aussi... Resident Evil surfe depuis le 7, surfe sur des succès, que ce soit le 8, que ce soit les différents remakes. Alors, tout n'est pas parfait parce que le 3 a un peu péché, mais malgré tout, Capcom est vraiment redevenu sur le devant de la scène. Moi, ça me fait très plaisir parce que c'est mon éditeur préféré, mais au-delà de ça, aux yeux du grand public, récemment, leurs jeux sont régulièrement cités, nommés au GOTY. Où ce sont des succès commerciaux. Le problème, c'est que y a quand même un peu des inquiétudes là-dessus. C'est que si on prend individuellement Street Fighter 6, comme tous les autres jeux de versus fighting, faudra voir comment ils résistent au projet L de Riot. Alors ils ont annoncé c'est 2XKO, je sais plus. 2XKO, je crois qu'il s'appelle le jeu de combat de Riot, parce que voilà, là ils vont vraiment appliquer leur méthode free-to-play à un genre particulier, donc le versus fighting. Moi j'ai quand même quelques réserves sur ce jeu-là, mais du point de vue de Capcom, c'est un nouvel entrant, donc c'est un risque. Pour Resident Evil, on commence à avoir les potentiels remakes qui s'épuisent, donc il va falloir trouver autre chose. Et puis Monster Hunter reste dynamique, ça y a aucun souci. Mais si ça continue à être un gros succès, il va y avoir une nouvelle concurrence. Et puis on le voit, les concurrents de Monster Hunter, c'est pas des gens qui font du Monster Hunter, c'est aussi des jeux comme Dragon's Dogma, c'est du Horizon, c'est les Souls. Les Souls sont des gros concurrents aussi à Monster Hunter. Capcom est aussi dans une phase où ils doivent trouver autre chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que depuis quelques temps, on voit que Capcom a énormément annoncé de nouvelles IP, ce qui était... J'avais fait un épisode sur ça, mais avec Exoprimal, Pragmata et Kunitsu, Path of the Goddess, j'ai oublié le nom exact, mais ça fait trois nouvelles marques. Et ça, la dernière fois que Capcom avait lancé une nouvelle marque, si j'exclus la collab avec Apple Store Shinsekai, qui était juste pour lancer Apple Arcade, c'était en 2013 avec Remember Me. Donc, trois marques annoncées en l'espace de 2 ans, c'est énorme. Parce que, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sentent bien, ils voient bien que, déjà, on sécurise énormément d'argent avec nos grosses licences. Donc, c'est l'occasion de lancer deux nouvelles marques. Bon, Exoprimal, force est de constater que ça n'a pas vraiment pris et il y a peu de chances pour que ça. Alors j'ai regardé les chiffres, on est quand même sur Steam, on est à moins de 1000 joueurs par jour, donc bon, c'est quand même peu. Pour inscrire le jeu dans la durée, hein, j'entends. Kunitsu, Path of the Goddess, ça reste intéressant, ça reste une proposition intéressante, notamment aussi sur le plan éditorial, parce que là ils sont en train d'intégrer un genre qui est la stratégie. J'avais jamais vraiment adressé, et c'est quelque chose qu'ils avaient déjà exploré dans Rise, comme si dans Rise était un petit peu un terrain de travail pour ce jeu là et puis on a Pragmata, mais Pragmata a été annoncé avec un certain retard. On l'a pas vu, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, le jeu Pragmata, même si les équipes nous disent qu'elles continuent de travailler dessus. Ça reste un projet qui a l'air un peu compliqué, et faut pas oublier que Capcom avait annoncé un jeu extrêmement prometteur qui était Deep Down, qui a été abandonné. Donc, même si le jeu a été présenté, il n'est pas exclu que le jeu soit annulé. Mais pourquoi Capcom, en fait, cherche à proposé autant de nouvelles licences récemment, c'est parce que, c'est pas parce que juste ils font de l'argent, c'est parce que ils ont besoin aussi de nouvelles marques pour croître. Et c'est pour ça que je pense qu'ils font revenir Dragon's Dogma, parce que ça va peut-être aussi pouvoir permettre de prendre le relais avec Monster Hunter quand on ne sort pas du Monster Hunter. En tout cas, c'est moi là, le positionnement que j'explique avec Dragon's Dogma. Donc voilà pour cet épisode. J'espère que ça vous aura appris des choses. J'espère que ça vous aura plu. Hein. Bon, l'objectif de ce podcast, il est double. À la fois, c'est bah, vous intéresser, de vous divertir avec des réflexions sur le jeu vidéo. Et le gros objectif, c'est que vous appreniez des choses. Alors, c'est pas forcément un cours, hein, c'est pas académique, mais c'est plus apprendre des choses en apportant des réflexions qu'on n'entend pas forcément, qui sont pas, c'est pas trop un angle qui est abordé en général dans l'industrie ou de manière assez superficielle. Donc là, voilà, j'essaye de mettre un peu plus en lumière ces aspects, voilà, gestion de marque, marketing, etc., pour que ça nourrisse des réflexions. Ça ne veut pas dire que ce que je raconte là, c'est une opinion, c'est un avis, il vaut ce qu'il vaut. Mais l'idée, c'est que, enfin, ce qui est intéressant, c'est que vous, ça génère des réflexions à vous. Peut-être qu'elles seront complètement à l'opposé de ce que j'ai raconté, mais c'est ça que je cherche à créer, c'est que ça vous fasse réfléchir, ça vous fasse penser. À des angles, à des sujets qui concernent le jeu vidéo, mais de manière un peu différente. Voilà, c'est tout pour moi. Donc c'était donc normalement l'épisode sorti. Alors, quand vous aurez écouté ça, Dragon's Dogma sera pas encore sorti, mais on aura peut-être quelques notes. Donc ça va nous aider en fait aussi à se positionner en fonction du succès, parce que si c'est une catastrophe commerciale et critique, bon, bah, ça va être vite vu pour le rôle que pourra remplir Dragon's Dogma, et c'est déjà pas gagné hein, malgré tout ce qu'on dit, parce qu'on le voit même avec des grosses licences comme Final Fantasy, bah, c'est pas des chiffres de vente qui sont enfin, mirobolants, donc rien n'est garanti, et donc en tout cas pour nous, ce sera intéressant d'étudier ça pour la suite. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!